Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. 47e épisode, épisode numéro 46. Nous sommes le 2 juin 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre Zemb. Qui êtes-vous, Pierre Zemb ?
Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Zemb et je fais partie des nouveaux de chez Clever Cloud et je travaille sur tout ce qui est base de données, système distribué.
Bien. Et je suis également accompagné de Pierre-Antoine Grégoire. Qui êtes-vous, Pierre-Antoine Grégoire ?
Bonjour, je suis Pierre-Antoine Grégoire, je suis flou, ah ça y est, non, ce qui n'est pas beaucoup parlé aux gens qui sont en audio, je suis nouveau chez Clever Cloud depuis 2 ans en permanence, et voilà, je travaille sur des sujets de virtualisation, de choses comme ça.
Très bien, et aujourd'hui nous sommes également accompagnés d'un invité de marque, Dimitri Fontaine, qui êtes-vous ?
Bonjour à tous, et donc je suis l'auteur du bouquin que j'ai utilisé pour me cacher. The Art of PostgreSQL, et ça fait une vingtaine d'années maintenant que je gravite autour du monde Postgres, que j'ai contribué un petit peu à Postgres lui-même, et puis à pas mal d'outils autour, et que j'ai eu l'occasion d'agir en tant que développeur, DBA, consultant, plein de choses qui gravitent autour de PostgreSQL.
Super, on va en reparler dans cet épisode, comme vous pouvez vous en douter, il y a pas mal de liens Postgres aujourd'hui.
Si vous écoutez jusqu'au bout, on va parsemer des morceaux d'un code de promotion pour le livre au fur et à mesure de l'épisode.
Soyez attentifs.
Et restez jusqu'au bout.
Exactement. En premier lien, du coup, pas PostgreSQL, on va commencer par un petit lien GAFAM avec Google. Google qui s'est fait attaquer au sujet de la récupération d'infos de localisation alors que l'utilisateur ne souhaitait pas ou en tout cas avait pensé ou même voire même avait désactivé la fonctionnalité en question. C'est pas super clair et malheureusement en fait tous les articles qui parlent de ce sujet-là mentionnent des documents qui ont été divulgués à la suite de ce procès en décalé. Sauf que ces documents ne se chargent pas, il n'y a qu'un seul lien qui est référencé à chaque fois, je ne sais pas si c'est que tout le monde essaie de le charger et le lien se fait des autres, je ne sais pas, mais du coup j'ai pas plus de détails que ce qui est dit dans les articles. Donc voilà, l'idée a priori, ouais, c'est que Google aurait demandé à certains fabricants, peut-être tous, de cacher ou de rendre assez peu facile l'accès aux paramètres qui permettent de désactiver le tracking de la position et l'historique de position. Voire éventuellement de mettre différents paramètres et de faire en sorte que ce soit vraiment compliqué et qu'on ne sache pas vraiment si désactiver ou pas. Moi je dirais juste aux auditeurs qu'il faudrait du coup, si vous souhaitez désactiver ça, de vérifier que c'est effectivement désactivé, qu'il n'y a vraiment pas d'historique. Parce que, voilà, on peut se poser la question en tout cas. J'ai juste vu que Google a répondu à, je crois que c'est The Verge, suite à ça, et ils se défendent en disant que les personnes du coup qui ont fait ce procès, des concurrents, on ne sait pas plus, ont poussé le trait un peu loin et ont déformé, on va dire, la volonté de Google. Voilà, c'est ça leur réponse, ils disent qu'ils ont toujours fait des fonctionnalités qui respectent la vie privée, etc., et qu'on est des gens bien. Voilà, donc chacun croit ce qu'il veut.
C'est une ligne de défense comme une autre.
Voilà, c'est ça.
La volonté,
un peu vague.
L'implémentation.
Ouais.
C'est ça. Après, c'est toujours la question, la marge entre le vrai devil design, où t'imagines que les gens font les choses de manière malveillante, et le laisser-faire de certaines choses qui vont servir à d'autres départements qui se trouvent avoir besoin de ces data, donc, et puis qui finalement sont pas très regardants et disent « bon, si elles sont là, tant mieux, quoi ».
Tant mieux, exactement.
Mais tu vois, c'est pas forcément un devil design, mais c'est pas non plus un design qui empêche le truc, donc c'est compliqué.
Oui, c'est ça, on peut pas forcément dire qu'ils ont fait exprès de cacher le truc, si ça se trouve, c'est juste que c'était très secondaire, ils ont mis ça dans un coin sans trop y réfléchir, et puis voilà.
Mais après, il ne faut pas négliger
sur cet aspect-là,
important des données.
J'aime bien essayer de me souvenir et de rappeler aussi, quand j'en ai l'occasion, que le marché de Google, le business model de Google, en fait, il gagne de l'argent avec une seule chose, Google. C'est la publicité. Google, c'est une agence de pub. Les détails techniques qu'ils nous ont fournis au cours des années, c'est vraiment pour eux des détails d'implémentation. Android, ça ne les intéresse pas plus que ça. Ce qui les intéresse, c'est la pub que ça génère. enfin l'argent qui vient de la pub que Android permet de générer. Pareil avec Chrome, ils ont fait un super navigateur, c'est juste pour afficher plus de pubs. Hein. YouTube, Gmail, etc. Tous ces outils-là, ils ont un seul objectif, c'est rapporter de l'argent via de la diffusion de publicité. Le reste est accessoire. Et il y avait un article qui était, je crois qu'il sort régulièrement, peut-être chaque année ou quelque chose comme ça, qui prend les grandes entreprises du GAFAM et qui montre la répartition de leur chiffre d'affaires par activité. Et Google, on est à, je sais plus, 98% de publicité, quoi.
C'est 98.
Ouais. Ah, c'est dans le enfin, grandeur, dans ces... c'est Google, c'est oh, la pub.
Je pensais.
Oui, c'est gigantesque. Et en fait, ça drive énormément. Et après, leur objectif, c'est même pas tant d'avoir de la publicité, parce que je pense qu'il y a plein de boîtes qui auraient cet objectif-là, mais leur objectif, c'est d'être les seuls à la fournir. Et d'où le fait de faire des plateformes.
Ouais.
Parce que Android, l'intérêt, c'est de s'accaparer l'intégralité du mobile pour ne pas être, devoir négocier avec d'autres pour être le médiateur de publicité, quoi.
Ouais, ça va très loin leur truc. Il y avait... Alors, c'était un article un peu, j'imagine, peut-être diffamatoire, je ne sais pas trop. À une époque où Google s'intéressait à la santé et au vieillissement des populations, ils ont un département chez Google qui s'intéresse à ça. Et les mecs disent, bah oui, c'est normal, parce qu'en fait, quand les gens meurent, on arrête de leur vendre de la pub. Et nous, on voudrait vendre plus de pubs. On a l'intégralité du marché mondial, on n'arrive pas à avoir plus de gens. Donc le seul moyen d'avoir plus d'argent maintenant, c'est que les gens vieillissent plus, quoi, parce qu'on les a tous. Maintenant, il faut qu'il reste plus longtemps.
C'est ça.
Donc, il s'intéresse aux techniques de médecine et comment garder les gens en bonne santé plus longtemps, parce que bah, sinon, ils perdent du chiffre d'affaires, quoi.
Donc, en fait, il faut regarder plus de pubs pour que Google s'occupe de nos vies, pour vivre plus longtemps, mais tu vis plus longtemps pour voir des pubs.
Voilà.
C'est notre seul but dans la vie.
C'est chaud.
Triste, quand même.
C'est chaud.
Bien, je vous propose de passer au lien suivant, autre GAFA, mais cette fois c'est Amazon. Amazon qui, bon là c'est encore un truc lié, hein, on est toujours sur une histoire de procès, Amazon est attaqué par le gouvernement américain pour pratiques déloyales envers les vendeurs de sa marketplace. C'est pas un très gros procès, c'est on va dire un petit détail qui va sûrement pas leur coûter très cher. La partie intéressante, c'est juste que c'est la première fois que Amazon est attaqué par le gouvernement américain liés à des pratiques déloyales. Voire même tout court, d'ailleurs, je crois pas qu'ils aient déjà eu de procès par le gouvernement américain, qui de toute façon n'a pas tellement l'habitude de se mêler de ce genre d'affaires, quoi. Donc, c'est quand même intéressant à voir. Voilà.
C'est lié de près ou de loin à... Ah non, pardon, j'allais dire une bêtise, j'avais parlé de Epic, mais Epic c'était avec Apple là-bas.
Oui, c'était c'est vraiment pas lié. Là, c'est lié à une histoire de tarifs où, a priori, Amazon ne mettrait pas en avant les vendeurs qui ont des prix trop bas. Ouais. Supposément, peut-être que si eux vendent quelque chose à un certain prix, les produits par exemple Amazon Basics, ils veulent pas qu'il y ait un concurrent sur la marketplace qui vende moins cher.
Ça, c'est clairement avéré. Hein. La pondération avec les produits Amazon en première liste, elle est carrément évidente. Hein.
C'est ça.
Cherches un câble USB...
Apparemment, ce qu'ils font, c'est qu'ils interdisent aux vendeurs de vendre leurs produits à eux à un meilleur prix que ce qu'ils vendent à Amazon. Quand on est sur la marketplace, on n'a pas le droit de vendre moins cher à qui que ce soit d'autre que Amazon. Voilà. C'est la garantie du prix bas façon Amazon, quoi.
Ouais.
Façon monopole.
C'est ça, c'est tout pour le bien du consommateur.
Enfin. Ouais, pour prendre un exemple de plus cher, n'est-ce pas ? On m'a demandé plusieurs fois pourquoi mon bouquin, qui est disponible en papier et tout, là, et on n'est pas sur Amazon. En fait, je le vends moi-même.
Faudrait que tu donnes les deux, trois premiers caractères du code de promo, maintenant.
Oui.
Je vais le donner en entier.
On va égrainer comme ça.
Ça commence par message. Et le code promo va obtenir 30% de remise. Alors, il faut donner.
Il y a un trop grand indice.
Vous m'en faites tomber mon micro, dites donc. Et ouais, donc sur Amazon, pour vendre un bouquin. Eh bien, Amazon va garder 70% du prix de vente dès lors qu'il est vendu à plus de 10 euros. Hein? Bah, ils considèrent que c'est un bon prix puisque les éditeurs habituels, ils prennent 85%. Donc, en tant qu'auteur, les meilleurs
c'est ça,
auteurs
après, c'est
arrivent
une question
à 5% des prix de vente. La plupart des auteurs, ils sont plutôt à 7-8%. Et donc, chez Amazon, on est à 30%. Donc, Amazon considère qu'ils nous font un superbe cadeau. Mais quand on est éditeur soi-même, enfin, quand, bah du coup, donner 70% du budget à Amazon, c'est Bon, je préfère le garder en fait.
Ouais, c'est tout à fait compréhensible. Mais ça, c'est, enfin, on va dire que c'est un syndrome des plateformes, mais ça marche aussi dans la grande distribution. Moi, ça me fait penser à cet argument de c'est pour le consommateur ou c'est bien pour le fournisseur et tout ça. T'as la même chose avec les. C'était un argument de Leclerc aussi, pour en nommer un, mais je pense que c'est pareil si tu prends des plateformes type Auchan, Carrefour et compagnie. C'était le truc de pour le bien du consommateur, on tire les prix les plus bas, oui, mais bon, voilà, derrière, t'as un fournisseur de. Je sais pas, de produits agricoles, quelque chose comme ça, qui va être. Qui va se faire serrer le kiki.
Ouais, et puis en plus, je crois que dans la grande distribution, ce qu'ils font aussi, c'est que.
Les marges arrière.
Ils payent leurs fournisseurs à 6 ou 9 mois après avoir reçu les biens.
Et seulement si ça s'est bien vendu, quoi.
Ouais. Mais du coup, pendant 6 à 9 mois, bah, eux, ils l'ont déjà vendu depuis longtemps. Tout ce qui est produit frais,
ça travaille.
Exemple, c'est vendu dans la semaine. Hein. Mais ils payent que 6 à 9 mois plus tard. Et donc, entre-temps, l'argent, bah, ils le font rentabiliser avec les méthodes classiques financières. Enfin, voilà, c'est un monde superbe.
Oh bah, je pense que oui, du coup, après, je ne suis pas familiarisé énormément avec une boîte comme Amazon, mais tout comme tout revendeur, oui, l'argent, les marges d'argent travaillent. Et vu la masse qui est brassée côté Amazon, ça doit bien travailler, ouais.
Bah ouais, je crois.
Bah, c'est pas grave, ça va nous faire des fusées pour aller sur Mars congeler avec la vie éternelle, donc c'est cool.
Non, mais Amazon, c'est compliqué parce que Jeff Bezos a gagné beaucoup plus d'argent que le nombre de personnes qu'il a virées dans l'année pendant le Covid. Donc il a viré plein d'employés parce que le Covid, c'est compliqué. Et, mais ça représente peut-être 1% de l'argent qu'il a gagné personnellement dans la même période. Je crois qu'il a gagné plus de 60 milliards de dollars pendant le Covid, personnellement.
C'est difficile de se rendre compte, en fait.
Oui, moi je...
Alors j'ai un truc pour comprendre ce que c'est un milliard. Parce que c'est... je suis d'accord avec vous, ça dépasse l'entendement. Moi, j'arrive pas à imaginer un milliard par rapport à un million. Bon, c'est 1000 fois plus, ça fait 1000 millions, mais ça veut rien dire. Alors, j'avais vu une astuce, c'est de le comparer en temps, en secondes. Un million de secondes, l'ordre de grandeur, c'est 11 jours. Voilà, ça fait un million de secondes, ça prend 11 jours à peu près. Bon, mais... Donc 1000 fois plus, ça fait 11 000 jours, ouais, c'est facile, ok, ça fait 31 ans. Donc quand on passe de 1 million 11 jours à 1 milliard, on passe de 11 jours à 31 ans. C'est ça l'ordre de grandeur. Et là, c'est un peu plus facile pour nous, humains, de comprendre ce que ça veut dire, quoi.
Et tu pars d'un million. Donc si déjà, toi, t'as pas un million, les 60 milliards de Jeff Bezos, pour les avoir, il va te falloir un sacré paquet de temps.
Non, mais la différence est extraordinaire, en fait. Parce que, en fait, on a l'habitude de se dire 1 million, je les aurai jamais. Et donc 1 milliard, la question se pose pas. Mais en fait, ouais. La différence entre les deux est abyssale. Mm-hmm. Enfin, ouais, c'est juste fou, quoi. Donc, si on te donne 1 euro par seconde dont t'as pas besoin, que tu mets sur un compte planqué, en 11 jours, t'as 1 million. Mais pour avoir 1 milliard, il faut 31 ans. Lui, il en a gagné 60 des milliards en moins d'un an pendant
cette
le
année.
Covid, sans rien faire de plus que d'habitude.
Ça me paraît tout à fait normal.
Tout à fait.
Attends, mais il a pris des risques, voilà, il est récompensé justement. Voyons. Bienvenue dans le podcast libéraux.
Ouais. On est à deux doigts de parler des employés Amazon qui sont obligés de porter des couches parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des pauses pipi. Donc, on va être triste après, on va pas parler de tout ça.
Ouais, mais c'est pour réussir à faire les 31 ans en continu, c'est normal.
Certainement. Bon, on va quitter le monde du commerce et des inégalités pour partir sur le monde de la tech avec un article posté par Pierre-Antoine au sujet de Quick.
Enfin oui, disons posté.
Enfin posté
dans notre
un lien. Voilà, un lien proposé. C'est pas toi qui l'as écrit, bien sûr.
Alors et puis je suis pas du tout autorité là-dessus. Alors moi j'ai découvert, enfin j'ai pas découvert Quick. J'entendais parler de Quick, je regardais un petit peu de côté, un peu comme Speed ou des choses comme ça. Mais travaillant pas mal dans un univers d'entreprise et bon, à part quand je travaille avec mes chers amis de Clever, le sujet de Quick et des protocoles très récents est un sujet qui est plutôt disons de la science-fiction dans l'immédiat, mais qui est quand même quelque chose de très intéressant parce que ça permet d'optimiser justement tout ce qui est transport autour d'HTTP, HTTPS même pour être plus précis, parce que c'est quand même basé beaucoup sur le principe que par défaut c'est du TLS. Et Et donc, il y a un article qui explique relativement bien ce qu'est Quick à l'occasion de la publication d'une série de RFC dont la principale est la 9000. Et comme on disait en rigolant, on a l'impression qu'ils ont fait exprès pour cibler un contron pour le côté marketing du truc. Mais je ne pense pas que ce soit aussi simple. Non, parce qu'il y a plusieurs RFC. Après, il y a la 9000, la 8999 d'avant, 8999 pour nos amis truc riverains. Et la 9001, 9002 aussi, qui sont attachés. Et donc, ce groupe de RFC normalise Quick. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Quick, c'est un protocole qui, du coup, n'utilise pas TCP pour faire de l'HTTP ou de l'HTTPS. Et normalement, un protocole qu'on pourrait voir au même niveau que TCP ou UDP. Mais là où ça se complique un petit peu, c'est que pour simplifier son déploiement et pour éviter de trop réinventer, de pouvoir passer par les tuyaux existants et tous les appareils existants, en fait, ils ont basé Quick sur UDP. Donc, c'est une surcouche sur UDP, mais qui se situe quand même dans le même, dans la même région de type de protocole. Et donc l'intérêt, c'est d'ouvrir des connexions et de permettre de charger plein de ressources en parallèle et d'ouvrir, des sockets spécifiques pour charger, par exemple, toutes les CSS, tout le JavaScript d'une page dans une même connexion et pas avec des connexions successives ou parallèles, mais qui sont complètement distinctes et basées sur TCP et stabiliser un peu tout ça et augmenter la débit, la qualité de tout ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans parce que l'article en lui-même, je pense qu'il nous prendrait la moitié du podcast à détailler. Et encore une fois, j'en suis pas expert, je l'ai découvert, mais je trouve que c'est très bien expliqué. Ça, il faut le dérouler tranquillement. Alors, après, ça rentre pas mal dans le détail de la RFC, pourquoi elle est là et tout ça. C'est pas la partie, moi, qui m'a fasciné le plus. Mais ne serait-ce que l'intro sur le pourquoi, du comment et l'historique est vraiment pas mal. Après, j'ai pas énormément plus à dire que de vous dire d'aller suivre le lien dans les show notes. Mais si vous avez des choses à dire là-dessus, vous êtes déjà confronté à ça, n'hésitez pas.
La question qui me vient, c'est est-ce que l'article parle de la qualité de connexion réseau dont tu as besoin pour pouvoir passer de TCP à UDP ? C'est pour les pays qui sont bien connectés, où on a la fibre, ou 4G, 5G, etc. J'imagine que UDP qui remplace TCP, c'est une super bonne idée. Quand les connexions restent en ADSL ou sur des trucs un peu moins fiables, le RTC c'est peut-être fini maintenant, peut-être dans tous les pays, je suis même pas sûr, mais pour ces pays-là, est-ce que ça marche?
Alors, sur ce qu'ils expliquent, un des buts justement, et il y a une des RFC qui normalise ça, c'est de gérer ce genre de problématiques. Ça rentre pas énormément dans le détail, mais il y a beaucoup de liens dans cet article lui-même vers d'autres choses externes que je suis pas encore allé voir. Il y a beaucoup de travail qui a été fait justement sur cette réconciliation des paquets et la conciliation pour en cas de perte de connexion, de connectivité ou de choses comme ça. Mm-hmm. Je pense que c'est un des buts aussi parce que un des buts principaux est de targeter des devices mobiles. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a une grande partie du marché asiatique ou en Afrique qui sont essentiellement basés sur le mobile et où là, je pense que c'est une des cibles principal aussi pour ce protocole, donc je pense pas que ce soit négligé. Mm-hmm. Maintenant, j'avoue que je sais pas exactement comment c'est implémenté, mais il y a toute une part de ce protocole qui justement est au-dessus du DP, qui utilise du DP comme moyen, mais qui n'est pas, qui du coup n'a pas les mêmes inconvénients entre guillemets de perte de paquets parce qu'il fait cette conciliation. C'est un peu une sorte de mix de ce point de vue de ce que faisait TCP et de UDP, mais il ne fait pas du tout de la même manière que TCP.
Ok.
De ce que j'avais compris, en fait, à la base, l'idée derrière Quick et Speedy avant et qui a été utilisé derrière dans HTTP2, c'était vraiment de faire un meilleur TCP, un TCP plus intelligent qui fait des retries justement, qui gère les pertes plus intelligemment. Et après, il y a eu le côté connexion parallèle, préchargement de certaines choses, etc. Mais il me semble qu'à la base, c'était vraiment le côté un meilleur TCP, quoi. Qui se base sur UDP parce que c'est une façon simple de le faire, comme tu le disais, de réutiliser l'existant.
Je pense qu'au départ, comme Speedy, ils avaient probablement une volonté d'en rajouter un troisième, qui serait une alternative, mais qui se sont rendus compte que déjà, ils n'arrivaient peut-être pas à mettre tout le monde d'accord, et que le temps que ça s'intègre dans le matériel, ça allait être assez compliqué, parce qu'il y a quand même beaucoup d'appliances dans ce domaine-là, et de choses qui traînent partout, où finalement, la mise à jour va être vraiment, vraiment, vraiment complexe.
Ouais, il y a une conf du développeur de, je sais plus comment il s'appelle, de Curl sur Quick HTTP 3 qui explique en fait que c'était juste ingérable de d'imaginer mettre à jour tout le matériel qui sert à Internet, quoi. Globalement, c'est juste ingérable.
Pour avoir une chance que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait tous les éléments de la chaîne entre un utilisateur et son point d'arrivée qui soient compatibles. Tu vas avoir 0,1% du trafic qui va fonctionner comme ça, du coup, c'est
pendant très longtemps. Disons que ça serait une technologie de niche ou pour certaines choses, certains services qui ont été mis en place complètement de nouveau sur leur chaîne intégrale, quoi.
Mais là, ça peut durer.
J'ai envie de dire, il pourrait presque avoir un protocole spécifique qui ne les regarde que dans ces cas-là. Donc, le but, c'était pas le but de départ non plus. Le but, c'était quand même de s'inscrire dans le World Wide Web.
Pour pouvoir charger des pubs plus vite.
Tu as tout compris. Et la boucle est bouclée, quoi.
Bien, du coup, je vous propose de passer à la suite. On parlait du coup de ton livre déjà tout à l'heure, Dimitri. Mm-hmm. C'est le moment d'en parler plus en détail.
Eh bien, avec plaisir. Avec plaisir. C'est un livre que j'ai écrit après avoir fait beaucoup de consulting. Et en particulier, avoir beaucoup discuté avec des développeurs d'applications. Et où je me suis rendu compte que, en fait, on parlait très souvent des mêmes choses autour du SQL et qu'il y a cette espèce de tendance alors qui vient pas forcément des développeurs eux-mêmes, mais c'est un petit peu l'écosystème dans lequel ils évoluent qui pousse un petit peu les développeurs à envisager le SQL comme un espèce de truc qui est sur le côté, puis qu'on sait pas bien gérer dans le code directement parce qu'on va concaténer des chaînes de caractères avec du paramétrage qu'est-ce qu'il en est de l'injection, toutes les problématiques de sécurité. Et puis construire une chaîne SQL, c'est pas évident. Donc il y a tout cet aspect d'ORM qui a été à la mode pendant très longtemps. Mais le résultat de les ORM, c'est que les développeurs ne s'intéressent pas au SQL. Et du coup, il y a plein de fonctionnalités avancées dans Postgres. Alors je dis qu'elles sont avancées parce que les gens ne les connaissent pas bien, mais en réalité, c'est des fonctionnalités qui ont été normalisées par le standard SQL entre les années 92 et 2008, quoi. Donc Les premières choses qu'on va voir en général quand on parle avec des développeurs, c'est des notions qui datent de 92, enfin qui ont été normalisées en 92, donc qui existaient déjà avant.
Ouais. C'est pas edgy, quoi.
Ouais, donc on n'est pas sur SQL 2011 ou 2018 où on parle des genre match recognize ou des choses un peu compliquées comme ça. On est vraiment sur des notions de grouping set avec le group by, on est sur des notions de window function, de ce qu'on appelle les CTE, donc les common table expressions. Donc c'est le fait d'utiliser WIS en début de requête, qui permet d'avoir en gros des vues qui sont inline. Donc il y a tout un tas d'outils comme ça qui sont proposés par le SQL, qui sont implémentés par Postgres, qui sont faciles à utiliser, à exploiter. Quand vous avez déjà PostgreSQL dans votre stack technique, bah, tous ces outils-là, ils sont à dispo. Ils ne demandent qu'à être utilisés. Et beaucoup de développeurs qui ont des besoins, et ces outils répondent parfaitement, mais comme ils ne sont pas au courant, ils ne vont pas les utiliser, ils vont les contourner. Et donc la moitié de mon travail en tant que consultant, c'était de montrer aux développeurs, est-ce que tu savais qu'il y a telle fonctionnalité qui existe et que du coup, ton travail que tu fais qui est galère, là, en fait, c'est juste un mot-clé à rajouter dans ta requête SQL et c'est terminé. Et puis ça va plus vite et puis tu obtiens juste le résultat dont tu avais besoin, etc. Et donc c'est comme ça que petit à petit m'est venue l'idée, bah, déjà sur mon blog où j'ai écrit beaucoup d'articles d'introduction comme ça de fonctionnalités SQL, et puis au bout d'un moment, j'en ai fait un livre, quoi. Et donc le livre, il s'adresse aux développeurs d'applications, des gens qui font du SQL, quoi. La plupart des livres Postgres qu'on trouve sont plutôt orientés administrateurs de bases de données. Donc c'est plutôt le lien avec l'administration système, le matériel, l'optimisation de performance, la fiabilité, la haute disponibilité, tous ces aspects-là qui sont vraiment importants également. Il y a assez peu de littérature aujourd'hui qui s'adresse à exploiter Postgres du point de vue du développeur quand on écrit du SQL, quoi. Et puis comment intégrer son code, comment faire de la review, comment faire des tests automatiques, comment faire des changements de schéma dans son application, etc. etc. Donc c'est ça le background derrière le bouquin. Et donc je remonte le bouquin, voilà, il est en anglais, hein. Donc,
Il est bleu avec une très belle. On décrit pour ceux qui sont uniquement en audio, hein, parce que tu le montres pour eux, mais en fait.
C'est vrai que c'est un podcast au départ. Ouais. Nous, on l'a vidéo, je me rends plus compte, mais.
Oui, bah, il sera diffusé aussi avec vidéo, mais bon. Donc voilà, je fais le voice derrière. Dimitri is showing his. le voice-over. Mais c'est intéressant parce qu'en effet, moi, bon, honnêtement, sur la plupart du temps sur SQL dans le développement applicatif, j'ai eu ce syndrome du SQL anémique, hein, c'est-à-dire le SQL qui est généré par l'application avec une indirection de framework ORM ou pas, ou par un truc custom qu'on fait qui est souvent pas plus brillant que le truc ORM, voire moins, hein, c'est pas vrai non plus. Parce que les ORM, après, on décrit beaucoup, mais ils savent faire des choses malines, mais déjà, les gens creusent pas l'ORM lui-même, donc j'imagine même pas ce qu'ils génèrent derrière. Ouais. Et c'est vachement intéressant. Mais après, l'inconvénient, enfin, la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est que très souvent, les bases de données et l'endroit où ils sont hostés étaient des sortes de bastions avec un gardien qui est le DBA, qui est le seul qui a le droit de faire des modifs, et qui est le point de contention qui fait que s'il n'est pas dispo, tu n'as pas le temps de le faire. S'il n'a pas envie, si ça ne lui plaît pas, bah, ton changement, tu ne l'auras jamais. Et ce n'est pas un endroit où tu peux vraiment expérimenter. Quelque chose qui a un peu changé, on va dire, avec les approches un peu plus DevOps ou agilistes, où finalement, on embarque le DBA ou l'expert de DB dans l'équipe, et la DB est plus accessible à l'expérimentation.
Ouais.
Et c'est ça qu'il faut réussir à avoir pour commencer à avoir ce genre d'initiative, parce que là, demain, quelqu'un qui est dans une structure où c'est encore le bastion du DBA et les DB centralisés à un endroit où il faut ouvrir des tickets à des gens pour faire un changement de schéma et des choses comme ça. Bon, bah, en fait, s'il lit ton livre, il va être un peu frustré. À la fois, il va se cultiver énormément sur ce qu'il peut faire et sur ce que fait son framework ORM et comment optimiser ça, ou voire même utiliser une alternative, hein, qui fait directement du SQL. Mm-hmm. Mais il y aura quand même un niveau de frustration où d'abord il faut travailler sur cette possibilité d'avoir accès à la DB un peu plus directement, quoi, parce que.
Ouais, ce qui est étonnant dans ce que tu dis d'ailleurs, parce que pour que les ORM fonctionnent avec la partie, alors ils appellent ça migration. Ouais. Ce qui est un peu compliqué parce que du coup ça veut dire deux choses très différentes, ce même mot. Donc dans le cadre des ORM,
c'est par plus de l'objet dans ce cas là
ouais, migration souvent c'est d'un moteur de base de données à un autre, ou alors d'une version à une autre de la base de données, enfin on migre les données physiquement sur un autre serveur, quoi. Mais là, migration, ça veut juste dire on rajoute une colonne ou un index ou un truc comme ça, c'est une migration. Bon.
Qui viennent de Ruby on Rails au départ, je pense.
Comment ?
Les dérivés. Je pense que ça vient de Ruby on Rails au départ et des dérivés avec les Active Record et les choses où tu migres ton modèle objet, en fait.
C'est plus ça.
Que ton,
ce qui n'a pas beaucoup de sens, d'ailleurs, de reproduire le modèle objet dans le modèle de la base de données, c'est pas là que ça se joue. Donc on en parle aussi dans
le sujet. En effet.
C'est la base de données, elle doit avoir une vue d'ensemble qui est vraie pour tous les utilisateurs de la plateforme en même temps, que ce soit quelqu'un qui passe une commande ou quelqu'un qui travaille au back office, qui fait la compta, l'analyse financière, etc. La base de données, elle a une vision qui doit être fiable pour tout le monde en même temps. Alors que le modèle objet qui est embarqué dans l'application en général, il est optimisé pour le workflow d'un utilisateur en particulier. Et donc évidemment, c'est les mêmes données et ça se recoupe, mais on ne peut pas faire le meilleur workflow possible de gestion de commandes pour l'utilisateur en même temps que le meilleur workflow possible de gestion des stocks avec le même modèle objet. Enfin, pas forcément. Enfin, en tout cas, on va pas céder quand on essaye de faire les deux en même temps, quoi. Bon, bref, tout ça, c'est un grand débat. Mais sur la partie ORM, moi, ce qui m'étonne dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pour que l'ORM fonctionne correctement et soit capable de faire ces migrations, il faut lui donner une chaîne de connexion avec les privilèges suffisants. Donc, dans PostgreSQL, typiquement, c'est le propriétaire de la base de données qu'on va utiliser, ou en tout cas un utilisateur qui a les droits de faire un alter table ou un create index. Et du coup, ça nous oblige à bypasser toutes ces règles de sécurité, ou en cas d'SQL injection, par exemple, on veut absolument pas que quelqu'un puisse faire un drop table alors que c'était pas prévu. Quand on regarde un rapport SQL, on est censé avoir des droits de lecture seuls. On n'est pas censé pouvoir faire alter table. Or, si on veut simplifier, on va séparer les droits. On va dire, il y a les droits de l'application, qui sont des droits de select, donc de vue des données, de toutes les données. Et puis, au plus simple, hein, on a le droit de tout voir, et puis on a le droit de faire ce qu'on appelle les DML, donc insert, update, delete, de gérer les données. Par contre, gérer le schéma, évidemment que l'application, au quotidien, quand il y a quelqu'un qui clique derrière son navigateur, il n'a pas le droit de modifier le schéma. C'est la moindre des choses. On passe avec les migrations dans l'ORM et la même chaîne de connexion pour les deux, on enlève tout ça. Voilà, l'aspect ORM, je comprends ses avantages, mais ça n'a de cesse de m'étonner, quoi. Je trouve ça un peu dommage, mais.
Je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a aussi un grand manque de compétences où une fois que les gens ont fait leurs objets, ils se disent voilà, je veux le persister. Mais après, ça vient aussi de paradigmes. C'est paradigmes où, en fait, la database, un peu à la microservice, où, en fait, tu as une source de données derrière un service et tu es censé t'adresser à ce service et pas aller taper toi-même dans la source de données. Ouais, et cette source de données, elle peut être une base de données SQL ou autre chose, quoi. Et ça devient un détail d'implémentation en dessous. Et ce qui est un peu à l'envers du raisonnement que tu as notamment dans ton livre. Et parce que tu n'exploites pas vraiment le moteur qui est derrière, quoi.
Pour moi, c'est encore
un stockage brut, quoi.
Ouais. Bon, je suis désolé, mon son n'est pas très bon, donc des fois, je vous coupe la parole. Pour moi, l'idée, c'est encore pire que ça. C'est différent. Il y a deux axes qui sont contradictoires. C'est que dans ce que tu dis et que je retiens, ce que j'entends le plus, c'est que la base de données est un système de stockage. Mais c'est pas le cas, puisque du stockage, si vous êtes dans le monde Java, vous allez gérer des fichiers XML, c'est du stockage, vous les mettez dans S3, en blob storage, vous avez une garantie de stockage, tout va bien. La base de données n'a jamais voulu résoudre le problème du stockage. En fait, dans les années 70, les gens savaient écrire des fichiers sur disque et puis les relire et les mettre en mémoire. Hein. On n'a jamais eu ce problème-là. Donc la base de données, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour gérer la concurrence d'accès aux données. C'est-à-dire, on veut avoir un jeu de données unique avec plein de gens qui vont s'en servir en même temps et qui vont tous faire soit de la lecture, soit de l'écriture, des modifications de manière concurrente, et on veut garantir que ça se passe bien. Et ça, c'est vraiment complexe. Si vous pensez que c'est simple, bah faites-le dans votre application. Écrivez du code qui va gérer un seul fichier avec 3-4 lignes, hein, pas un gros truc, et puis autoriser 3-4 utilisateurs en même temps à lire et écrire dans le fichier. Et il faut que ça se passe bien à tous les coups. Voilà. Et il faut qu'à la fin, si vous avez des règles métiers, alors en SQL, c'est là, on n'est pas bon en marketing, alors on appelle ça des contraintes. Mais personne ne veut avoir des contraintes. Enfin, la plupart des gens, ils veulent pas des contraintes. Mais en fait, c'est des garanties de business. Donc vous définissez des garanties. Je veux une garantie que cette colonne-là sera jamais nulle. Ou elle aura ce sens-là, et il faut garantir ce sens avec des relations de clés étrangères, avec des choses comme ça. Mais essayez de maintenir ça dans votre application avec une concurrence d'accès systématique. Donc il y a toujours 3, 4, 5 utilisateurs, des fois 500, 1 million, ça dépend de l'appli, mais restons sur des choses raisonnables, une dizaine. Et puis garantissez un jeu de contraintes et puis un jeu de données unique. Et ça, c'est vraiment dur. Et c'est ça, en fait, que fait donc tu parlais de microservice. Le microservice base de données, il est là pour ça, la concurrence d'accès. Et c'est ça qui est compliqué, vraiment. Et le SQL, pourquoi il est intéressant d'avoir des fonctionnalités de plus en plus avancées et compliquées dans le SQL, c'est qu'il y a des moments, les aspects de concurrence d'accès aux données, ils vont être liés à des traitements de plus en plus compliqués. Et la question que j'aime me poser, moi, de savoir est-ce que ça vaut le coup d'écrire une requête SQL complexe, c'est est-ce que le traitement que la requête implémente, je dois le protéger en termes de concurrence d'accès? Est-ce que c'est compliqué? Si je récupère les données, je le fais dans l'appli. Est-ce que si pendant ce temps-là, les données changent? Est-ce que s'il y a un insert qui passe, un delete, quelque chose? Est-ce que si je fais 3 requêtes à la suite, est-ce que le résultat est consistant? Est-ce qu'il a du sens pour mon application? Est-ce que mon rapport comptable, il va pas être foiré parce que entre-temps, quelqu'un a fait un delete sur les trucs de l'an dernier parce qu'il y a eu un rattrapage à faire? Comment je garantis que mon export, il a du sens au niveau comptable ou au niveau financier, au niveau... Ça dépend avec qui on travaille, quoi, parce que quand on fait du SQL, on travaille un peu avec tout le monde. Mon suivi de commande, ou est-ce que la personne, je lui autorise à commander le dernier item de la liste que j'ai au stock? Bah, bien sûr, mais une seule personne, hein, pas deux. C'est le dernier. Et puis il faut déclencher un appel de relance des stocks pour en refournir, etc., etc. Donc c'est tout ça qui est compliqué en vrai. Et donc le SQL, on embarque du traitement dans le SQL quand le traitement, bah, il est nécessaire de le garantir en termes d'aspect transactionnel, en fait, de concurrence d'accès.
Garantie de cohésion.
On a besoin d'être capable d'exprimer des choses compliquées, même en SQL, quoi. Voilà. C'est comme ça que j'aime bien réfléchir au truc de mon côté.
Et je me souviens d'une explication que tu nous avais donnée dans un user group qui était justement les misconceptions, c'est pas français ça, les problèmes, je trouve plus le mot français, c'est terrible, c'est horrible. je vais dire misconceptions, puis on nous tapera dessus venez nous taper dessus dans les commentaires, n'hésitez pas. Et sur le concept de relation, en fait, quand les gens parlent de base de données relationnelle.
Oui. C'est un grand classique, ça. En fait, relationnel, ce que ça veut dire, c'est qu'une relation dans une base de données relationnelle, c'est la même chose, c'est le même concept qu'une relation au sens mathématique. Quand on fait un peu d'algèbre ou quoi, en mathématiques, ce qu'on nomme une relation, ça va être un ensemble, une liste quoi, d'objets qui ont toutes les mêmes propriétés. Donc on parle de domaine et d'attributs du domaine en SQL, dans la norme, si on veut rentrer dans les détails de la théorie relationnelle, c'est des tuples qui ont les mêmes attributs de domaine. Alors tuple, ça veut dire quoi ? Le T, enfin tuple en anglais, ça se dit N-uplé en français. Parce que si on... Alors, quand il y en a qu'un, c'est un singleton. Quand il y en a deux, c'est un couple. Quand il y en a trois, etc., etc. Et donc, quand il y en a N, bah, c'est un N uplé. Voilà. Et donc, ça veut juste dire qu'il y a N colonnes. Et en anglais, ils n'ont pas pris N, ils ont pris T. Donc, ça fait tuple. C'est plus facile à dire peut-être en anglais, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut juste dire qu'on connaît le nombre de colonnes et que de toutes les lignes de la relation, elles ont le même nombre de colonnes. Et ensuite, l'histoire des domaines d'attributs, c'est que donc, les colonnes, c'est des attributs. Et les domaines, c'est le typage de données, en fait. C'est que chaque colonne a toujours le même type de données. Et donc, la théorie relationnelle, c'est une théorie qui nous permet de travailler avec des listes d'objets qui sont tous composés de la même manière. Ils ont les mêmes nombres d'attributs, et donc colonnes, et chacun des attributs est du même type. Donc, quand vous avez une colonne qui est de type entier, bah, toute la colonne, tous les objets sur cette position de colonne-là vont avoir un entier à proposer. Et c'est ça, une relation, en fait. Donc, une base de données relationnelle, c'est un machin qui gère plein de relations. Et alors après, dans la théorie relationnelle, le fait qu'il y ait des tables et des index, ça n'a aucun intérêt. Dans le standard SQL, il n'y a pas d'index, parce que ça, c'est des optimisations d'accès aux données. Ça ne correspond pas aux données, à comment on les exploite. Donc vous n'avez pas le droit, normalement, en SQL, quand vous créez un index, de changer le résultat d'une requête. La vitesse à laquelle elle s'exécute, pourquoi pas. Ça peut être plus rapide ou plus lent, ça dépend. Si vous rajoutez des index, bah, les inserts vont être plus lents, c'est normal, il faut maintenir les index. Mais les selects vont être plus rapides, sinon on ne créerait pas d'index. Et du coup, c'est un compromis qu'il faut gérer intelligemment. Mais ça ne change pas le résultat de la requête. Et donc, tout l'aspect relationnel, c'est ça. C'est des collections quand on est dans le domaine, quand on est en Java, quand on est en .NET, quand on est dans n'importe quel langage applicatif, vous avez toujours une API pour gérer des collections. Et les collections, c'est quoi ? C'est un ensemble d'objets qui sont tous du même type. Et alors après, le grand débat du relationnel, c'est est-ce que c'est en anglais, donc il y a set ou bag. Je suis pas sûr de pouvoir utiliser la bonne terminologie en français. Donc est-ce que c'est un ensemble qui autorise ou pas les duplicats ? Donc un ensemble au sens strict mathématique du terme interdit les duplicats. En SQL, il faut faire l'effort supplémentaire de créer une clé naturelle pour les empêcher. Et du coup, c'est un grand piège où tout le monde se fait avoir, mais bon. Donc il faut faire ça soi-même, alors qu'en mathématiques, la notion de relation, elle a pas de ligne doublée, quoi. Ça n'existe pas les doublons en maths. Mais en SQL, ils ont fait le choix de pas forcer l'interdiction des doublons. Donc il faut, c'est à nous d'y réfléchir et de savoir si on veut les accepter ou non.
Si on veut faire du unique ou pas, quoi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais aussi, alors pour le coup là on est parti dans du théorique, mais enfin ton bouquin il est beaucoup plus pragmatique dans son approche de la chose, avec beaucoup d'exemples très pratiques.
Oui.
C'est ça qui est appréciable, je trouve.
Bah, ce que j'ai essayé de faire, c'est de ce que je me suis dit en fait, la méthode que j'ai utilisée, c'est de me dire, quand on montre une technique SQL, genre une window function, c'est la première fois qu'on voit une window function, c'est vraiment bizarre, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Donc si en plus on vous montre ça sur un jeu de données synthétique, donc qui a été généré avec des nombres aléatoires, ben on ne comprend pas les données, on ne comprend pas le résultat et on ne comprend pas la technique. Ça fait beaucoup de choses à apprendre en même temps, quoi. Alors du coup, j'ai essayé de trouver à chaque fois des jeux de données qui ont du sens. Alors, par exemple, il y a un jeu de données R2 en open data. Donc il y a un jeu de données, Chinook je crois qu'il s'appelle, donc c'est un gars qui a enregistré plein d'albums et qui a fait une base de données d'albums de musique, donc il y a l'artiste, le nom de l'album, le nom des pistes, pour chaque piste il y a la durée, etc. Et donc déjà avec ça on peut faire plein de requêtes SQL rigolotes, et puis le jeu de données, bah, quand on voit un artiste avec le nom d'un album et puis qu'en plus on l'a déjà écouté, bon bah on sait tout de suite de quoi ça parle, on comprend les choses. Et quand on fait par exemple un group by sur la durée de chaque piste d'un album pour savoir combien de temps dure l'album, ça parle un peu à tout le monde. Et puis après, j'ai un jeu de données sur les Formule 1, alors bon, décroissance économique, etc., mais aussi l'optimisation de la performance des moteurs. Bon, c'est tout un débat, on va pas le faire aujourd'hui. Mais du coup, on trouve en open data tous les résultats de toutes les compétitions de Formule 1 depuis le début. Et du coup, pareil, quand on fait une requête SQL qui nous montre qui a gagné chaque course, donc celui qui est arrivé en premier, et puis combien de fois il est arrivé premier dans la saison, et puis combien de points ça lui fait, etc. Même si on n'aime pas la Formule 1, une course de vitesse où il y a un gagnant, c'est quand même facile à comprendre. Et quand on regarde les données, on voit ce qui se passe, quoi. Même si on ne connaît pas les noms des champions de Formule 1, j'ai un truc où il y a tous les champions par décennie. Alors on parle de Alain Prost, on parle de Fangio, on parle de gens comme ça. Même si on n'en a jamais entendu parler, bon, on comprend ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc ouais, dans le bouquin, il y a énormément d'exemples. Je crois qu'il y a 250 et quelques ou 300 requêtes dans le bouquin, et chaque requête utilise un jeu de données open data qu'on peut retrouver et récupérer soi-même, quoi.
Très cool.
Tu as mis combien de temps à écrire le bouquin, par curiosité?
Non, ça,
parce que moi ça me paraît gigantesque comme boulot, en fait.
Ouais, en fait ça faisait des années que je l'avais en tête et que je voulais le faire. Donc je pense qu'en fait, au moment où j'ai commencé, ouais, l'écriture, dans ma tête il s'était passé plein de choses déjà. Mais évidemment, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'idées qui marcheraient pas. Et j'ai mis 3 mois à temps plein. J'ai eu la chance d'avoir 3 mois où j'ai pu me consacrer à temps plein à l'écriture du bouquin. Et du coup, à temps plein, ouais, j'ai mis 3 mois à peu près à écrire le livre. Et sur certains chapitres, j'ai mis plus de temps à trouver les jeux de données et puis un angle d'attaque intéressant.
Un angle d'approche, ouais.
Que de faire le contenu lui-même. Après, le contenu, une fois qu'on a les idées, on sait de quoi on veut parler, et puis une fois qu'on a trouvé le bon angle d'attaque, après ça...
Ouais. Une fois que tu as le fil narratif, en fait, ça déroule.
Ouais, c'est assez simple, ouais. C'est pas un roman, okay, quoi. Il n'y a pas une histoire compliquée à tenir en haleine.
Il y a peut-être un truc à faire pour la prochaine release, ouais. Romancer. The Romance of PostgreSQL.
Bah, y a un manga qui explique comment marche PostgreSQL. J'ai oublié son nom.
Sans rigoler.
Oui,
j'avais la connaissance. Ils ont fait un manga super sympa.
Cool.
C'est tout rose avec
des fonds. On va essayer de le retrouver, de le mettre dans les show notes.
Je crois que j'ai le lien quelque part. Je vais essayer de le retrouver.
Okay. On essaiera de le mettre dans la description, du coup. Yeah. Je voulais juste revenir sur cet aspect où il y a beaucoup de développeurs qui considèrent que la base c'est un peu quelque chose de secondaire, qui modélisent d'abord l'application. Mm-hmm. Et en fait, ça, personnellement, c'est un truc qui m'a toujours un peu poser question, en fait c'est dans mes études, à chaque fois qu'on m'a parlé de modélisation d'une application et des données derrière, on a toujours commencé systématiquement par l'application et la base de données c'était toujours ensuite. Genre on dérive, on part d'un modèle d'application, puis après à partir de là on va essayer d'en découler un modèle de base de données. Et c'est vrai qu'en fait au fil du temps avec l'expérience, moi ce que je fais à chaque fois c'est que je modélise la base de données d'abord. Avant toute chose, et après je modélise l'application, et je trouve que c'est beaucoup plus naturel.
Ouais.
Et je sais pas si ça conviendrait à tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment une façon plus logique de faire, et ce serait bien, s'il y a des formateurs, des professeurs qui nous écoutent, de prendre ça en compte, et peut-être de se poser la question de faire les choses différemment. Et ça, je pense que ce serait plus simple, en fait, pour tout le monde.
Moi, je pense que c'est
surtout important de se connaître les deux, en fait, c'est bien.
Ouais, le truc pour moi, ça m'évoque le TDD, où on commence par écrire les tests. Est-ce qu'on peut demander à un débutant de faire ça? Un vrai débutant, quand tu écris ton premier code, créer les tests en premier, c'est compliqué, quoi. Donc, ce que j'aime bien, c'est une autre approche qui est le RDD, README Driven Development, où l'idée, c'est d'écrire comment tu vas utiliser l'outil avant de commencer à l'écrire. Et donc, tu racontes, tu écris le README classique, hein, qui explique comment ça marche, comment ça s'utilise, quels problèmes ça résout, etc. Et une fois que tu as écrit le README, tu peux commencer à écrire le code. Parce que tu sais exactement ce que tu veux faire, et puis ça permet d'avoir une vision assez simple du périmètre aussi, du scope.
D'aucuns diraient que c'est une sorte de user story.
Ouais. Après, moi, je suis pas rentré...
Ouais, mais tu veux pas rentrer là-dedans.
Une user story, etc. Pourquoi pas? Et donc, c'est ce que je dis aussi dans le bouquin pour écrire des requêtes SQL. C'est compliqué Donc, dans le bouquin, j'essaye de montrer des requêtes SQL avec à chaque fois une user story ou un... On essaye de résoudre un problème concret, quoi.
Un scénario.
D'abord, on l'explique. Bon, là, c'est en anglais, donc on l'explique en anglais, et ensuite en SQL. Et puis, on voit que le SQL, il ressemble vachement à la phrase en anglais, en fait. Mais jusqu'aux requêtes compliquées, où là, c'est un peu moins vrai. C'est plusieurs paragraphes qui s'enchaînent avec des clauses un peu compliquées, mais bon, pourquoi pas. Et donc, pour revenir au truc, je pense que c'est facile de commencer par le design de la base de données uniquement quand tu maîtrises ce que tu veux obtenir à la fin pour ton application. Et donc je pense que quand on ne sait pas trop quelle application on va écrire, ça peut valoir le coup de commencer par écrire du code, mais c'est pareil, c'est pour ça que je parle du TDD, pour moi c'est la même chose. Donc on va écrire du code, mais ce qu'il faudrait avoir en tête, c'est que c'est du code jetable. C'est la première version du code, elle nous permet juste de comprendre le problème. Et une fois qu'on a compris le problème et qu'on sait ce qu'on veut faire, ben là on peut repartir à zéro et puis faire le modèle de base de données propre dès le début, et puis après du code qui va avec, etc. quoi.
Mais là, le problème, ouais, mais ton code jetable, il est déjà en prod.
C'est ça.
Il est déjà en prod, c'est ça le problème.
Ouais, alors ça, c'est compliqué, ouais. Et après, il y a des environnements de développement ou de programmation ou des outils qui facilitent cette approche interactive de « je découvre mon problème », et puis d'autres dans lesquels c'est plus compliqué, ouais.
Bien, on passe à la suite.
Il ne faut pas jeter un froid non plus. En parlant de froid...
pas mal.
Ouais, non, oh là là. Hey, en parlant de froid, allez, on se lance. Hein. Eh ben, en parlant de froid, on va parler de PolarDB. PolarDB qui est une surcouche à PostgreSQL pour rester dans le même thème. Et c'est Pierre qui va nous en parler.
Oui, alors PolarDB, c'est donc une nouvelle base de données distribuée basée sur PostgreSQL qui a été open sourcée par Alibaba. Alors PolarDB, j'ai regardé un peu, en fait c'est un produit chez Alibaba, managé, qui vous permet de spawner du SQL distribué. J'ai pris des notes, ça gère jusqu'à 16 nœuds de la réplication, de l'achat, etc. Et donc le projet GitHub, en fait, c'est une extension APG. Où ils ont rajouté plein de choses, ils ont rajouté du Paxos, du Paxos, de la réplication, du failover, enfin c'est vraiment un système distribué entier qu'ils ont fourni en tant qu'extension PG, donc PostgreSQL. Ils ont l'air de se baser sur la version 11 d'après les sources, et c'est marqué dans la documentation que normalement ça devrait être facile à upgrade vers des versions de PostgreSQL plus récentes.
Mais si c'est facile, pourquoi ils ne l'ont pas encore fait?
Voilà, écoute, il y a 15 commits dans le repo, dont un de 3 millions de lignes. Donc,
on ne connaît pas trop l'historique, quoi, forcément.
Ouais. Bah, j'ai essayé de rechercher un peu l'historique, parce que PolarDB, en fait, ils en parlaient dans des papiers de recherche, mais c'était pas du tout la même chose, c'était pas du tout les mêmes architectures. Ils en parlent dans deux papiers à 2 ans d'intervalle, et c'est pas du tout le même design. Et j'ai l'impression que ce qui a été open sourcé, c'est encore un troisième design. Quand tu regardes, donc je me demande vraiment ce que c'est. Si c'est un truc qu'ils ont open sourcé, mais je pense pas que ça soit ce qui est derrière leur produit PolarDB.
S'ils l'ont open sourcé, c'est probablement que c'est pas ce qu'il y a derrière maintenant, ou alors qu'ils sont en train de switcher vers un autre modèle. Mais
c'est ça.
C'est vrai, c'est peut-être une version simplifiée.
Après, c'est peut-être un peu pessimiste comme commentaire, bah, mais c'est souvent comme ça que ça se passe.
Déjà, tu as.
Il y a un aspect un peu différent aussi. En fait, on a du mal à se rendre compte, mais PostgreSQL est extrêmement véloce. Donc là, la version 14 est utilisée, elle sortira en septembre, a priori. Mais on a 300 développeurs qui ont fourni des tonnes de choses, quoi. Et du coup, même quand c'est un fork, c'est quasiment impossible de suivre. Donc dans le passé, il y a eu beaucoup de forks de Postgres. Dans ce domaine-là, de PolarDB, du SQL distribué, c'était Greenplum, par exemple, qui est devenu pivotal et puis qui fait partie de VMware aujourd'hui. Greenplum, ils étaient basés sur la version 8.2, je crois. Et pour eux, de passer aux versions supplémentaires, là, ils viennent de sortir une version compatible PG12, je crois. Ils ont mis 5 ans pour rattraper le retard et puis arriver à faire un git merge, quoi. Donc le git merge de ce qu'ils avaient basé sur 8.2 et avec la PG, en gros, ils ont mis 5 ans à faire ça. Avec des gens vraiment bons, quoi.
Sur un projet aussi dynamique, plus tu te décales, plus tu prends de...
Donc le
gros plus tu as besoin de monde pour le maintenir, quoi.
Ouais. Ouais. Les extensions, ça réduit le coût de maintenance de manière drastique. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens essayent de faire des extensions. Mais ils n'arrivent pas à zéro. Et donc, une des raisons pour lesquelles dans le monde Postgres, il y a des choses qui sortent en open source, c'est que le coût de maintenance est tel que ils aimeraient bien avoir un coup de main. Et puis, pour avoir un coup de main, il faut à minima être capable de montrer ce qu'on a fait pour avoir un avis des committeurs Postgres qui leur disent « Ah, dans ce cas-là, fais plutôt comme ça. » Mais si on ne peut pas au moins montrer ce qu'on a fait, on n'aura pas de conseils. où c'est compliqué. Après, il faut embaucher des gens, etc. Enfin bon. Donc souvent,
ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est pas exclu du coup que ça vienne, que ce soit drivé par le fait qu'ils aient voulu avoir du feedback des committeurs Postgres qui l'ont dit OK, mais votre truc, d'abord, faut l'ouvrir. Pour qu'on puisse vous aider, quoi.
Ouais. C'est possible, ouais, parce que le produit PolarDB côté Alibaba, il s'est marqué qu'il est compatible avec MySQL, PostgreSQL et Oracle. Donc peut-être qu'ils ont des soucis sur de la compat ou des choses comme ça. Ils voulaient peut-être avoir du retour du feedback, ouais, comme tu dis.
Ouais, alors c'est souvent aussi, ouais. C'est quand on veut rajouter des fonctionnalités dans Postgres, on dit, ben voilà, j'ai un cas d'usage, ben faut montrer le cas d'usage, quoi.
Mm-hmm. C'est ça. Et là, par contre, d'ailleurs, tu parlais de justement que c'était une extension. Il me semble que pour PolarDB, il y a une grosse partie extension, mais il y a quand même une petite partie patch. C'est pas juste une extension, si j'ai bien compris.
Ah, j'ai pas vu ça.
Je crois. Après, ça a peut-être évolué et peut-être que c'était autre chose que j'ai.
Ouais.
Peut-être du papier dont ils avaient parlé, je sais pas.
Après, s'ils sont compatibles, a priori, avec MySQL, une partie de la compat, ça va être le protocole. Et ça, aujourd'hui, dans Postgres, on peut pas, dans une extension, rajouter un nouveau protocole ou même un nouveau parseur, en fait. Donc, s'ils veulent parser, dans Oracle, il y a ConnectBy, dans MySQL, il y a Upsert. Il y a des termes techniques comme ça qu'on sait faire en Postgres, l'équivalent, mais on n'accepte pas la syntaxe. Donc, s'ils veulent ne serait-ce qu'accepter la syntaxe pour l'implémenter différemment, bah ouais, ça, il faut patcher. On peut pas le faire dans une extension.
Pour l'instant.
Yet.
Non, il y a un thread énorme qui a démarré avec un nouveau produit d'Amazon l'an dernier. Où c'est Babelfish, je crois, où c'est une compatibilité Microsoft SQL Server pour Postgres.
Ouais.
Et
on en avait parlé.
Il y a des gens d'Amazon qui essayent de contribuer à une façon de faire des protocoles et des syntaxes extensibles pour Postgres. Donc, regardez les threads sur les mailing lists. Il y a énormément de discussions autour de ça. Il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes philosophiques, il y a des problèmes de licence, etc. Et c'est très intéressant.
Oui, quelque part. Enfin, après, je connais pas moi le fonctionnement de on va dire, de la, enfin, la manière dont ça parse la syntaxe et ça en fait quelque chose. Mais j'imagine qu'il y a derrière, c'est l'idée d'en faire une sorte d'AST que tu peux, du coup implémenter dans différents langages, quoi.
Mais c'est déjà le cas en fait. SQL, c'est un énorme compilateur.
J'imagine qu'il y en a déjà. Ouais.
Donc il y a le parsing, après il y a la planification de la requête, et ensuite il y a l'optimisation de la requête. Et comme tous les systèmes un peu optimisés, en vrai, il y a un petit bout de planification qui est faite dans le parseur, et il y a un petit bout d'optimisation qui est faite dans le planificateur, et il y a des petits bouts, voilà. Et après, il y a l'exécuteur, donc il y a un moteur séparé. Là, en fait, dans Postgres, quand vous faites explain, ben, vous voyez quasiment l'AST dont tu parlais.
Ouais, on voit le résultat de ce parsing, de cette planification, ouais. Et ainsi de suite, quoi.
Du coup, le boulot du parseur, c'est de transformer la requête SQL sous la forme de cette AST-là qu'on peut donner ensuite à l'exécuteur.
Alors, je vous propose de passer au lien suivant. C'est un lien posté par Dimitri et c'est un outil sur lequel tu travailles qui permet de faire de la haute dispo dans PG.
Yes. Donc on reste dans le même domaine en fait.
Aïe.
Ouais, alors si vous
aimez. Mais en mieux, évidemment. Ouais.
En plus, je peux en parler des heures, enfin. Ouais, donc je travaille sur un outil qui s'appelle PG Auto Failover. Et donc, comme son nom l'indique, l'idée c'est de. Bah, c'est de passer de, en gros, un nœud Postgres qui tourne sur le laptop et puis tout va bien, à un truc qui est plutôt de qualité de production. Et donc, pour passer en production, il faut de la résistance, de la tolérance aux pannes. Et donc, comment on fait de la tolérance aux pannes? En base de données, en général, ça ressemble à un failover, donc à une capacité de bascule en français. Donc, il faut qu'on puisse avoir un deuxième système sur lequel on puisse basculer en cas de manque de disponibilité du premier système. Et la grande difficulté en base de données autour de ce sujet-là, c'est que, de manière différente des systèmes, par exemple, de front au web avec Apache ou Varnish, Nginx, etc., quand on met du HAProxy devant, on peut avoir plusieurs back-ends. Ça, c'est assez facile à faire puisque les données qui sont servies sont statiques. Donc en cas de bascule, comment on garantit qu'on a le même jeu de données? C'est facile, il est statique, donc il a été déployé partout en même temps. Et puis, évidemment, il y a des détails techniques qui peuvent rendre la chose compliquée, mais globalement, on va s'intéresser à la disponibilité uniquement du service. Comment on garantit une dispo de service? Et en base de données, il faut garantir une disponibilité du service, c'est-à-dire je peux me connecter, mais également des données. C'est-à-dire que quand je me connecte à un nœud de remplacement qui a été automatiquement mis en place pour remplacer celui qui est défaillant, idéalement, j'aimerais bien avoir le même jeu de données que la dernière fois, quoi. En tant que DBA, si je vous fais un système qui garantit que le service, vous vous reconnectez, il y a le schéma, mais il n'y a plus les données, normalement, bah, je suis viré, quoi.
Il y a un petit côté fausse joie où tu peux quand même te connecter, tu vois,
c'est ça.
Ouais,
ah,
requêtes,
merde, il manque quelque chose.
C'est bon, il y a le schéma, alors.
Ah, c'est pas la bonne.
Mais c'est donc, du coup, c'est compliqué de faire de la haute disponibilité à la fois du service et des données. Et donc, avec PG Auto Failover, on a commencé par implémenter des choses simples avec juste deux serveurs. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Postgres, avec deux serveurs, on ne peut pas garantir à la fois le service et les données. Il faut faire des compromis. Et donc, PG Auto Failover, il permet de faire du failover, mais pas de la haute dispo quand on n'a que deux serveurs. Et ensuite, alors, l'idée, quand on n'a que deux serveurs, c'est que si vous perdez le secondaire, donc on parle de primaire et de secondaire. Quand on perd le secondaire, est-ce qu'on autorise les écritures sur le primaire ? Si on les autorise, on a un service de qualité, parce que le service n'est pas interrompu. En revanche, si maintenant on perd le primaire, on a des écritures dont on n'a plus de copie, on n'a pas de redondance. Donc on va perdre des données. Donc si on veut garantir les données, quand on n'a plus que le primaire, eh ben on bloque les écritures. On attend que le secondaire revienne. Mais ça veut dire que quand on perd le secondaire, on perd le service. Donc il faut choisir, c'est le service ou les données ? Voilà. Donc avec PG Auto Failover, on a un truc un peu opportuniste, où quand on a les deux serveurs, on garantit service et données, et si on perd le secondaire, bon, on arrête de garantir les données, et on autorise le service. Donc on est orienté service quand on n'a que deux nœuds. Et quand on a trois nœuds, là on fait le compromis habituel, où on a le droit de perdre un secondaire, puisqu'il nous en reste un autre. PostgreSQL sait faire ça très bien. Donc quand on a trois nœuds, on peut perdre n'importe lequel, et continuer de garantir le service et les données. Puisqu'on a on a un quorum en écriture, on est capable de perdre un nœud d'assumer les écritures, et quand on perd le primaire, on peut faire une bascule sur le secondaire qui est le plus à jour, et puis rediriger le service dessus, et tout continue, quoi. Voilà. Et donc PG Auto Failover permet d'orchestrer toutes ces opérations-là de manière complètement automatique pour gérer une production, quoi.
Où est-ce qu'elle est ta source de vérité, du coup, sur qui est up et qui est bord ?
Alors du coup, dans notre architecture, on a un composant supplémentaire qu'on appelle le moniteur, qui est lui-même une base de données Postgres avec une petite extension qui va se connecter à chaque nœud et relever s'ils sont présents ou non. Et donc ça, c'est une partie du design. Et l'autre partie, c'est que chaque nœud, en fait, on a un agent local qui est exécuté. Et en fait, pour le petit détail technique, est le process parent de Postgres. Du coup, quand vous tournez avec des containers, vous avez une seule arborescence de process avec un process parent identifié, qui est PG Auto CTL. Donc lui, il gère tout ça. Et lui, il se connecte au moniteur chaque seconde et il explique au moniteur où il en est. Et le moniteur, lui, c'est le donneur d'ordre. Donc c'est dans certains systèmes distribués, on appelle ça le témoin également. Donc lui, il va regarder ce qui se passe avec chaque nœud et puis prendre des décisions et donner des ordres aux nœuds. Et les nœuds, eux, chaque seconde, ils contactent le moniteur, ils disent voilà où j'en suis, ils récupèrent un nouvel ordre et puis ils l'implémentent. Voilà. Donc c'est ça.
Ça marche.
Effectivement, c'est bien vu, et il faut un nœud supplémentaire pour faire de l'audit.
Il te faut ta source de vérité ou au moins quelqu'un d'extérieur pour dire qui est vivant et qui est mort. Et
exactement. En fait, tu fais du achat de nœuds avec trois nœuds, en fait.
Bah oui, c'est ça.
La triche.
Quand on n'a que deux nœuds, on ne peut pas distinguer est-ce que j'arrive plus à le contacter parce que j'ai un problème réseau ou est-ce que j'arrive pas à le contacter parce qu'il est, il est plus disponible.
Speed brain, quoi.
Donc c'est compliqué de faire de haute dispo avec deux nœuds. Ouais.
Bah ouais, c'est pas possible.
Il y en a qui ont essayé.
Pour clarifier peut-être pour les gens qui seraient pas au courant de ce problème-là, l'idée c'est que si jamais il y a juste une coupure réseau entre les deux, si jamais le secondaire décide, l'autre est tombé, ok, je deviens le leader. Le problème c'est que l'autre il est peut-être encore accessible au client. Et du coup, les requêtes, elles vont aller potentiellement sur les deux nœuds à la fois. Et
on va avoir tous les deux être leader.
Un petit problème d'incohérence qui est bien plus grave à régler qu'un problème d'indispo. Ouais. Vaut mieux que le service soit par terre que de devoir fusionner des données qui ont vécu séparément dans deux endroits.
Ouais, c'est ce qu'on appelle le split brain.
C'est vraiment pas une situation enviable.
Ouais, exactement.
Ça, t'as raison, c'est le truc à éviter.
C'est la grosse plaie.
C'est la grosse plaie. Il y a plein d'histoires d'outage avec des split brain ou des mauvaises élections de leaders dans des systèmes de consensus genre Paxos et Raft. Le dernier en date, c'était Cloudflare et etcd. Ils ont eu ce cas-là, par exemple. Et là, pour reconstruire ta source de vérité, l'enfer, quoi.
Ouais, d'autant qu'il y a certaines transactions, si on est sur du SQL, alors ETCD c'est un peu différent, mais sur du Postgres, il peut y avoir des transactions qui ont été autorisées, ou des débits bancaires par exemple, alors c'est un faux exemple, il ne faut surtout pas utiliser celui-là, donc je fais exprès, je le prends, et après on expliquera pas.
On dirait qu'il est uniquement illustratif.
Alors, c'est ça. Il faut aussi dire que c'est un mauvais exemple, sinon les gens continuent d'utiliser. Et du coup, on peut autoriser des débits bancaires, alors qu'en fait, il n'y avait plus assez d'argent sur le compte, et quand on rapproche les deux nœuds qui ont été primaires pendant un moment, on se rend compte qu'on a fait des grosses bêtises. Et donc, pourquoi il ne faut pas prendre cet exemple-là? Parce que les banques savaient faire des débits bancaires et du déficit au temps des Templiers, avant qu'on ait des ordinateurs. Ils ont toujours su faire ça. Et en fait, ils gèrent très bien le risque. C'est-à-dire que quand ils se trompent et qu'ils vous autorisent à prendre de l'argent que vous n'avez pas, bah derrière, ils vous font payer 15% d'intérêt, ça s'appelle les agios. Et donc, ils gagnent de l'argent quand ils se trompent. Voilà. Donc, c'est un problème que les banques n'ont jamais voulu résoudre. Et donc, il n'y a aucune banque qui fait du transactionnel qui garantit que le compte n'arrivera jamais en dessous de zéro, quoi. Et oui, ils vous font payer quand ça arrive, c'est tout. Donc, bon, c'est un autre débat, mais c'est l'exemple le plus utilisé en système distribué transactionnel. Et en fait, les banques n'ont jamais fait ça, quoi.
C'est même utilisé pour valider des bases de données distribuées. Tu fais des transactions à gogo et tu vérifies que la somme de l'argent fait toujours tant d'euros ou tant de dollars.
Ouais, être capable c'est de faire ça, c'est vachement bien. Hein. C'est juste que les banques ne l'ont jamais fait.
Ils le font in fine, quoi.
C'est ça.
Ouais,
de manière systématique.
Ils ont des mécanismes de réconciliation. Ils ont des badges qui tournent toute la nuit, et puis à 8h du matin, ils savent si tu leur dois de l'argent ou pas, quoi.
Tada. C'est ça, c'est la réconciliation amicale.
Et à ce moment-là, tu reçois ton SMS de ta banque. Vous êtes en négatif à la fin du match. Donc, ça peut être entre 6h et 10h, tu vois, suivant la vitesse du cluster.
On n'est pas sur un système distribué en ligne en permanence. Enfin, on n'est pas sur les problématiques Paxos ou Raft, quoi.
Non,
très clairement. Ouais.
Bien. On reste dans le monde du SQL, mais là, c'est plus PG et c'est un peu plus particulier. C'est un SSD qui parle SQL. Et c'est Pierre qui va nous en parler.
Oui, alors c'est un papier de recherche qui a été publié ce mois-ci au VLDB. Alors le VLDB, c'est un forum sur ça s'appelle Very Large Database, et globalement, ils sortent des recueils avec tous les derniers papiers de recherche liés au monde des de la base de données des systèmes distribués. Donc ils ont sorti plein de papiers pour le mois de mai, et il y en a un qui est très très rigolo qui est fait par Samsung. Qui ont complètement modifié un SSD, et au lieu que le SSD expose du bloc qui va être consommé par le kernel, etc., en fait il expose directement du SQL. Donc vous pouvez taper en fait le SSD directement en JDBC. Et l'article est super intéressant. Ils expliquent en fait comment ils s'en sont arrivés là. Donc au début, ils commencent à t'expliquer que maintenant les nouveaux SSD, ils ont des procs ARM et de l'Ethernet. Donc du coup, t'es de la RAM. Du coup, tu peux dire tu peux commencer à mettre des choses. Après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont flashé SQLite dans le firmware. Et après ils expliquent comment ils ont fait une petite couche de file system pour faire la syntaxe, et que du coup en plus ils font du push down, donc ils poussent des opérations directement dans, enfin ils prennent en compte la nature du SSD directement pour venir optimiser les requêtes SQL. Et j'ai trouvé ça très très rigolo. Comme approche, ils ont même mis un petit bench. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça battait sur une requête SQL en termes de temps, ça battait avec un disque dur classique et un disque dur monté en IO Euring, qui est une nouvelle interface kernel.
Qui envoie déjà pas mal, ouais.
Qui envoie pas mal. Mais en fait, comme maintenant, le hardware est tellement rapide que le coût en fait de ta stack kernel en IO est devenu énorme. Donc tu as énormément de papiers de recherche qui sort en ce moment pour dire comment on fait pour bypass le kernel pour pour accéder à mes fichiers. Et du coup, ouais, c'est ces papiers là.
Descendre plein de firmware customisé au niveau du hardware, on a vu que ça avait aussi des effets. Hein. Et des trucs qui étaient proches du processeur qui ont causé quelques petits maux de tête à des gens comme
suite. Enfin bon, je trouve l'approche très rigolo de compiler SQLite et de l'injecter dans un firmware de SSD et d'exposer ça en JDBC. Enfin,
Mais par rapport à ce dont on parlait avant, là, pour le coup, il y a un couplage de ouf entre les données et le soft qui les manipule. Quoi. C'est-à-dire que là, la terreur de perdre les données avec, elle doit être quand même assez terrible. Quoi.
Ouais, très clairement, ouais.
Mais après, c'est l'approche historique qui a toujours, enfin, depuis les années 70, on a toujours le même problème. C'est est-ce qu'on rapproche les calculs des données ou est-ce qu'on remonte les données vers là où on a du calcul, quoi.
Donc, c'est ça.
C'est classique.
Alors, pour Moïse et la
parler
montagne.
Du kernel avec Ayo Uring, on a deux personnes, des contributeurs Postgres, qui travaillent en parallèle avec le développeur kernel. Donc, si je me souviens bien, le développeur kernel qui fait ça, c'est Jens Axbo.
Il est chez Facebook, non?
Ça, je ne saurais pas dire.
Et
en tout cas, côté Postgres, on a Andres Freund qui travaille avec lui. En fait, à chaque fois, enfin, ils travaillent tous les deux. Ils font régulièrement. Il y a le développeur kernel qui dit ouais, j'ai rajouté ça dans l'API, c'est vachement bien. Et le développeur Postgres qui dit j'ai utilisé. Il y a une performance de régression dans tel et tel cas. Est-ce que tu peux regarder? Puis ils travaillent ensemble, ils corrigent des trucs. Et donc, on espère que bientôt dans les versions modernes de Postgres. Là, alors, je crois que c'est pas passé en Postgres 14. Ce sera Postgres 15. On pourra exploiter complètement tout ce qui est DirectIO, IO Uring, etc. Des couches kernel, quoi. En tout cas, on a des gars qui bossent dessus.
Ça, c'est très cool.
Ça va déchirer.
Ouais. Et puis,
l'approche, ce qui est intéressant, c'est que l'approche à Uring, on en parlait dans un des derniers épisodes sur le kernel qu'on a fait, c'est que l'approche à Uring, elle est en train de se généraliser, même au niveau du kernel Windows. Enfin, ça s'élargit ailleurs que cette approche qu'au niveau du kernel Linux. Donc, c'est intéressant. Pour les modèles d'exécution, enfin, si ça converge, ça évite d'en maintenir plusieurs différents à différents endroits, donc c'est plutôt bien.
Ouais.
J'avais vu des benches QEMU KVM en PCI pass-through sur les NVMe, tu avais un overhead de 3% en utilisant un PCI pass-through en IO Uring sur ta VM par rapport à du natif. Enfin, ça, c'est oufissime, quoi.
Oufissime.
Et l'autre action que m'inspire l'article de pousser SQLite dans le SSD, c'est, vous voyez, les innovations en 2021, il y a encore du SQL au cœur, donc le développeur d'application, apprenez SQL pour de vrai, c'est le truc...
Pour aller bosser chez Samsung sur les SSD.
Chez Samsung.
C'est un langage qui vaut vraiment le coup d'être regardé en profondeur. Voilà.
On y revient pas mal, cela dit, au SQL. Il y a eu toute une période NoSQL où Mongo, c'était vraiment le truc du moment. On voit quand même de plus en plus de gens publier des articles sur le côté. Bah, en fait, on avait besoin de SQL et ça résout une partie de nos problèmes. Et c'est cool.
Après, NoSQL, hein, au départ, c'était pas de SQL. Hein, c'était not only SQL.
Non.
C'était quand t'as besoin de certaines caractéristiques, tu n'utilises pas d'SQL. Et ouais. C'est devenu radical.
De fait, voilà, ça a dérivé vers autre chose.
En certaines périodes. C'était pas aussi
le NoSQL, parce que tout à l'heure on évoquait ça. Un sujet qui m'est cher, c'est l'aspect transactionnel des bases de données. Et du coup, le NoSQL, en fait, ils vont jouer sur des compromis autour des fameuses quatre lettres, là, ACID. Donc atomique, consistant, isolé et durable. Et donc Postgres, lui, s'engage à faire les quatre. Et le truc, c'est que la plupart des gens des développeurs qui apprennent à utiliser une base de données, on va avoir dans notre esprit, de manière plus ou moins consciente et plus ou moins explicite, qu'on nous offre une garantie d'acidité derrière. Mais quand on regarde la plupart des systèmes SQL, ils vont enlever quelques-unes de ces lettres-là, de ces garanties-là, de manière à pouvoir obtenir des compromis meilleurs en termes de...
Big 3.
Ouais, c'est scalabilité, de ce qu'on veut, quoi. Et MongoDB, c'était compliqué au début. Alors, j'aime bien dire du mal de MongoDB, donc excusez-moi d'avance. Permettre.
Tout le monde sait qu'il faut faire du JSON dans Postgres.
On a plein de JSON dans Postgres, donc pour faire du document, on peut faire. Alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Ça dépend des cas d'usage. MongoDB, ils n'ont pas de transaction, c'est un choix. Mais du coup, on ne peut pas avoir dans ACID ni le A ni le I. On ne peut pas être ni atomique ni isolé quand on n'a pas de transaction. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a deux lettres d'ACID qui disparaissent. Donc, ça veut dire que ce boulot-là, c'est à l'application de le faire. Donc, est-ce que c'est intéressant pour vous de le faire dans l'application, ou est-ce que vous êtes sûr de ne pas en avoir besoin? C'est la première question à se poser. Et ensuite, ils ont ce design schemaless. C'est-à-dire que le C de ACID, c'est la consistance des données. Donc quand on n'a pas de schéma, on n'a pas de consistance.
Et en fait, je crois que ça change un peu. Hein.
Pardon?
Je crois qu'ils réintroduisent des concepts de schéma maintenant.
Ouais, parce qu'en fait, schemaless,
je ne suis pas de près,
parce que quand on regarde comment on
accepte. On a toujours implicitement.
Ah, je suis désolé, j'ai pas un bon son, je te coupe.
Non, excuse-moi, je pense qu'on est très légèrement décalé, mais je pense que oui, en effet, JSON, déjà en soi, il y a une forme de schéma, quoi.
Exactement, parce que dans l'application, on va coder en dur le nom des champs auxquels on accède. Bon, bah, si ça, c'est pas une définition de schéma, je sais pas ce que c'est. C'est juste qu'il n'est pas centralisé, le schéma, il est éparpillé partout dans ton appli. Donc il est beaucoup plus dur à maintenir, évidemment, mais bon, ils appellent ça schemaless. Donc on perd le C de acide. Et pendant très longtemps, MongoDB, il garantissait pas non plus la durabilité des données. C'est-à-dire, en cas de crash, vous pouvez perdre des données. Oui. Et comme il n'y a pas de transaction, il dit bon, bah, on repart comme on veut, on verra bien.
C'est ça.
Et donc, bah, voilà, il y a zéro des quatre lettres de acide, quoi. Donc, effectivement, il y a des gens qui peuvent fonctionner avec ça sans problème. Mais c'est une question intéressante à se poser. On ne remplace pas un système SQL traditionnel par un système... Alors, j'ai dit beaucoup de mal de MongoDB parce que c'est facile et j'aime bien. Mais il y a du NoSQL qui marche très bien, comme Cassandra, par exemple. Cassandra, c'est un super produit qui n'est pas du tout de la base de données relationnelle. Mais eux, leur compromis, eh bien, ils ont des transactions, ils ont un langage de requête avec un schéma, etc. etc. Est-ce qu'en termes des quatre lettres de acide, on s'y retrouve? Bah oui, on va s'y retrouver, mais on va pas s'y retrouver avec du relationnel et de l'approche classique, on va dire. Donc, pour moi, dans le NoSQL, il faut faire super gaffe et bien comprendre les compromis qui sont proposés par les différents outils, quoi.
Ouais, il faut comprendre le choix qu'on est en train de faire et quel compromis il y a derrière, en fait.
Ouais. Souvent, on y réfléchit sous un mauvais angle qui était... Alors, très souvent, moi, je l'avais vu, c'était remplacer simplement la DB dans une stack lamp par un Mongo, ce qui était quand même assez... c'est juste là pour le coup, voilà, c'était pas une très bonne approche. Et parfois, c'était juste, bah, comme on manipule tout le temps du JSON dans les applis, c'était le même raisonnement que j'avais tout à l'heure, qui n'est pas le mien, hein, je fais le raisonnement de... Je joue au Candide, mais le raisonnement de dire, bah, voilà, on manipule du JSON dans les applis, bah, on va stocker du JSON et manipuler du JSON dans la DB. Quoi, donc, et Mongo, à l'époque, c'était leur argument de vente. Donc du coup, vous avez du JSON là, vous avez du JSON dans l'appli, vous faites du JSON dans votre node, vous faites du JSON partout. Et ça devient votre paradigme d'usage qui de premier abord est simple, mais dès qu'on essaie de faire quelque chose de complexe, il y a beaucoup de boulot à faire côté applicatif. Quoi.
Est-ce que vous connaissez cette approche qui a, le développement est arrêté, c'est plus maintenu malheureusement, mais ToroDB, est-ce que ça vous parle? ToroDB et Stampede. Donc ToroDB, c'est des gens qui avaient fait, donc c'est Alvaro Hernandez en Espagne, avec son entreprise, qui avait fait un proxy qui parle le protocole MongoDB, et à la fois le protocole de requête et de distribution des données, et qui en fait stocke tout ça dans un nœud Postgres. Et donc ça permettait d'avoir la durabilité de Postgres en utilisant le protocole de MongoDB. Et ensuite, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils traduisaient automatiquement les requêtes MongoDB en requêtes SQL. Et à la fin, avec Stampede, ils avaient une couche où ils arrivaient à avoir un modèle SQL propre. Parce qu'il disait qu'en fait, dans une base MongoDB, 99%, 95%, ça dépend des bases, des documents sont les mêmes, ils ont le même schéma. Ce qui a du sens, évidemment. Et donc, en fait, ils repéraient ce schéma-là et ils le mettaient au propre dans du SQL avec leur appli, leur proxy. Et du coup, on avait un schéma SQL propre avec des requêtes SQL, etc. Et donc, on pouvait avoir un nœud MongoDB dans notre cluster qui, en fait, est un nœud Postgres. Donc ça, c'était ToroDB, mais c'est plus maintenu, malheureusement.
Wolf in disguise. Je vois le loup avec le costume de mouton.
Bien, passons au prochain lien. On repart sur un autre outil PostgreSQL qui sera présenté par Dimitri.
Est-ce que on a oublié de donner le code en entier? Est-ce que c'est le bon moment?
Ça peut être le moment.
Ça peut être le moment.
Ouais. Très bien. Pour nos auditeurs. Alors, pour ceux qui le voient, je remets le bouquin devant. Donc le code, évidemment, c'est minute.
Dimitri is showing his book. Pardon, excuse-moi.
Et donc ouais, avec le code minute 30, vous avez 30% de discount pour les fidèles auditeurs de la minute informatique.
Voilà. C'est message 30 pour message.
Message 30.
Pas minute, non? Ouais, message 30.
Okay. Tout attaché.
On le remettra de toute façon dans la description. Là. Et donc, du coup, le prochain outil,
Citus, qui est une extension. Alors, c'est bien parce qu'avec PolarDB et puis quelques autres technos, on a abordé le sujet déjà un petit peu. Donc là, on est sur une extension Postgres qui permet de faire du SQL distribué. Et donc, l'extension, ça veut dire qu'on charge ça dynamiquement par-dessus un Postgres existant. Donc, on garde toutes les fonctionnalités de Postgres. Et l'idée, c'est par-dessus ces fonctionnalités-là, d'être capable, sur une requête SQL, de faire interagir plusieurs nœuds SQL derrière. Donc le modèle que met en place Citus pour faire ça, c'est un modèle de distribution avec ce qu'on appelle une clé de partitionnement, quoi, une clé de sharding. Donc on va distribuer les données, on va indiquer une clé de distribution des données, et les données vont être réparties de manière à ce que chaque serveur SQL, donc on a le coordinateur, qui est celui auquel on se connecte en permanence, et ensuite on va avoir une architecture avec plusieurs workers qui sont enregistrés sur le coordinateur, et chaque worker va avoir un sous-ensemble du jeu de données, donc il va avoir le schéma entier, mais au lieu d'avoir une table en entier, si une table fait 1 milliard de lignes par exemple, et que vous avez 4 workers, chacun peut avoir 250 millions de lignes. Donc il y a une distribution des données qui est faite de manière automatique, et ensuite on profite de ces distributions-là de données pour distribuer le calcul du SQL lui-même. C'est-à-dire, à nouveau, hein, on rapproche le calcul des données pour optimiser les aspects de performance. Donc si vous faites un count avec un group by, eh ben, ça va envoyer le compteur. Donc par défaut, il y a 32 partitions. Donc vous allez avoir 32 requêtes qui vont tourner sur vos workers, qui vont chacun faire un count partiel, puisqu'ils n'ont qu'une petite partie des données. Ça va revenir sur le coordinateur et lui va faire la somme de tous les comptes et ça vous fait le résultat final. Donc c'est vraiment... Les trucs simples sont faciles à voir. Il y a même des gifs animés sur le site de Citus où on voit un peu ce qui se passe. Les trucs compliqués, c'est bon, évidemment, ça peut être plus tendu. Mais... Donc Citus, ça permet de faire ça. Et dans le monde du SQL distribué, aujourd'hui, il y a 3 aspects différents qu'il faut bien avoir en tête. C'est ce qu'on appelle, c'est du classique SQL, mais qui a encore plus de sens en distribué, c'est OLAP, OLTP et HTAP. Donc OLAP, c'est Online Analytical Processing, donc c'est pour faire du reporting. C'est toutes les requêtes qui durent longtemps et qui donnent, qui vont vous faire une page A4 à partir d'un teraoctet de données. Voilà, donc ça, c'est, on va travailler sur toutes les données qu'on a et à la fin, on va avoir juste. Donc ça, c'est de l'analytique, c'est ce qu'on appelle du OLAP. Traditionnellement, c'est des systèmes qui prennent peu de requêtes concurrentes en même temps, mais chaque requête, on va essayer de les pousser les performances au maximum. Ensuite, il y a le OLTP, donc c'est Online Transactional. Donc là, c'est plein de requêtes à la fois, et c'est beaucoup de requêtes sur des clés primaires, par exemple. C'est pour aider les utilisateurs sur le site web. Donc on va avoir un site avec des milliards d'objets, mais chaque utilisateur peut voir son objet super rapidement. Donc ça, c'est plutôt OLTP. Puis après, maintenant, on parle de HTAP quand on mélange les deux. C'est-à-dire que on fait de l'analytique par-dessus du transactionnel et on essaye d'avoir un seul système qui permet de faire les deux. Donc Citus, là où il est vraiment recommandé, c'est quand on a une approche mixte, c'est-à-dire qu'on veut avoir, on veut pas avoir une base relationnelle d'un côté puis un data lake de l'autre. On aimerait bien pouvoir faire notre analyse de données data lake en restant dans le monde SQL, éventuellement avec notre ORM habituel, etc. Donc on veut juste lancer la requête sur notre teraoctet ou pétaoctet de données et avoir le résultat. Et on ne veut pas dupliquer le jeu de données. Quoi. Voilà. Et là où Citus est très bon, c'est sur ce genre d'approche-là. Yep. Et c'est complètement open source, je ne l'ai pas dit dès le début. Citus est open source, voilà. Donc vous pouvez facilement jouer avec à la maison.
Tu veux dire que c'est open sourcé depuis le début ou ça a été open sourcé parce que vous avez plus le temps de vous en occuper ou...
Alors nous, on a embauché des développeurs PostgreSQL pour nous aider à s'en occuper. un petit peu. Et alors, l'histoire qu'on raconte pas trop, c'est qu'il y a un des développeurs qui a dit je viens si c'est open source. Et du coup, les gens regardaient, ils avaient pas franchi le pas en se disant que ça avait pas d'intérêt au niveau business, etc. Et en fait, comme le gars était très clair sur ses intentions, les mecs du business ont regardé en détail et ils ont dit non, mais en fait, effectivement, ça a pas de sens. Le fait d'être open source, c'est plutôt un avantage pour nous. Donc faisons-le, et ils ont fait ça, et le développeur est venu travailler avec eux, et puis et depuis c'est open source et c'est maintenu. Et donc Citus 10 qui vient de sortir, la 10.1 je crois vient de sortir, fonctionne avec Postgres 12 et 13, et du coup ouais, non, c'est maintenu. Et en fait, on a été racheté par Microsoft il y a 2 ans, et donc on a eu beaucoup de questions: est-ce que ça va continuer d'être libre, est-ce que ça va continuer d'être maintenu? Évidemment, ça va être intégré avec le portfolio Microsoft, hein, c'est le but du jeu, mais qu'est-ce qu'il en est de la solution open source? Et donc, en fait, on a sorti, je crois, 3 ou 4 releases majeures depuis l'acquisition par Microsoft. Donc, pour montrer que l'intention dès le départ, c'était que ça continue. Et puis, 2 ans après, on peut le vérifier. La meilleure release Citus qu'il ait jamais eu, c'était la 10.1 là, qui vient de sortir et qui a été faite sous l'égide de Microsoft. Donc, parfois, ils arrivent complètement à faire ce jeu-là de l'open source.
On est sur une bonne période pour Microsoft, point de vue open source. Ça fait quelques années qu'ils font des bonnes choses. Je ne sais pas si ça va continuer, mais pour l'instant...
Croisons les doigts.
C'est plutôt positif. Quoi.
Donnant le bénéfice du doute.
Ouais.
Non, mais quand je pense que c'est pour la... Alors ça, c'est un avis très personnel. Il se trouve que je travaille chez Microsoft aujourd'hui, mais j'en ai pas parlé avec les grands pompes de Microsoft. Je sais pas ce qu'ils ont en tête. Ce que j'ai l'impression de voir, c'est que pour être compétitif dans le cloud, comme ils sont arrivés un peu quand même après Amazon, le fait d'être capable de dire, nous, quand vous prenez PostgreSQL dans le cloud chez nous, c'est le PostgreSQL de la communauté, c'est le vrai, on l'a pas modifié. S'il tourne sur votre laptop, ce sera le même qui tournera sur Azure. Etc, etc. Donc ça, c'est un avantage pour eux, concurrentiel.
La même approche avec OpenJDK, où ils ont pris des gens de Londres là, qui bossaient sur Adopt OpenJDK, et ils ont embauché aussi pour travailler sur leur release et ramener la communauté avec aussi.
Ben c'est ça, en fait, c'est du marketing, c'est ce qu'on appelle du marketing technique. Mais du coup, tant que c'est gagnant-gagnant, c'est chouette.
Si ça permet d'avoir aussi des gens qui sont payés pour travailler sur le projet communautaire et open source, c'est très bien.
Ouais. Bon, ça fait 20-30 ans qu'on travaille dessus, mais je crois qu'on n'a toujours pas la bonne solution pour arriver à financer l'open source. Ou en attendant d'avoir des grosses entreprises qui payent des gens pour le faire à temps plein, c'est pas mal, c'est ce qu'on a trouvé de mieux.
De plus stable en tout cas, ouais, c'est clair.
Donc je vous encourage à regarder. Alors ce qu'on dit, c'est que c'est intéressant à partir de l'ordre de grandeur, c'est 100 gigas à 1 téra de données. Parce que avec moins de données que ça, la surcouche réseau de coordinateurs qui va parler avec les workers, surtout quand il y en a 32, enfin 4 workers on va dire, ou 2 workers avec 32 shards, la surcouche de communication, ça va ralentir vos requêtes. Si les requêtes tiennent en mémoire sur un seul host, le fait d'aller parler à un autre... Les ordres de grandeur
dans un
réseau, on n'y est pas, quoi. Par contre, sur un téra de données, alors on a des clients qui ont un pétable de données en ligne, accessible en SQL, avec des requêtes qui durent, je crois que la latence à 95%, elle est de l'ordre d'une demi-seconde. Et donc avoir des requêtes qui tournent en une demi-seconde sur un pétaoctet de données, c'est confortable, quoi.
C'est tout à fait honorable.
Ça commence à faire
correct.
Il faut un bon réseau entre les deux quand même, mais ça tourne bien, quoi.
Ouais, alors
la stack est pour Java.
Ces requêtes-là qui sont très rapides, c'est des requêtes qui vont manipuler. Chaque requête manipule assez peu de données. Elles vont pas manipuler le pétaoctet, bien sûr. On fait pas des jointures de fou entre toutes les tables sur le. Non, c'est pas ça. Mais des requêtes assez précises, quand on a un pétaoctet de données, arriver à les faire dans un temps raisonnable, c'est quand même déjà un challenge.
Ouais, c'est pas évident. Mais surtout distribuer, quoi. Ouais.
Rien que trouver quel shard taper ou pour essayer de limiter en fait le push down des queries, rien que ça, tu vois, faut que ça patate.
Ouais.
Bien, on passe au dernier lien, et là on sort de l'univers PostgreSQL, mais on reste dans le SQL, et c'est un lien de Pierre qui va nous parler d'un outil pour MySQL.
Oui, alors j'ai trouvé ce lien en fait en me renseignant sur une boîte qui s'appelle Planet Scale, qui a sorti une offre. Ils font du DB as a service et ils ont sorti leur bêta. Fun fact, ils ont dû fermer leur bêta parce que c'est pas si Planet Scale à l'ouverture de la bêta. Mais bon, bref, passons le troll. Et en gros, ils font du Vitesse qui est un projet cloud natif qui fait du MySQL distribué. Je connais pas très très bien. Et dans ce qu'ils avançaient, Planet Scale, ils annonçaient en fait plusieurs fonctionnalités, dont le changement de schéma online, donc sans coupure des écritures et des lectures. Et du coup, j'ai creusé un peu le sujet et en fait, c'est implémenté dans Vitesse et ils utilisent un soft open source de GitHub qui s'appelle Ghost et qui permet de faire en fait de la migration de schéma automatisée côté MySQL. J'ai pas testé, j'ai trouvé le tool intéressant parce que il y a l'air d'avoir un vrai focus sur l'aspect prod ready. Tu peux le tester sur des réplicas, tu peux mettre en pause la migration, tu peux le reconfigurer à chaud si ça se passe mal. Il est auditable, donc tu peux lui demander où est-ce qu'il en est sur la réplication et le changement de schéma. Tu peux désactiver les phases qui sont touchy. Donc globalement, comment ça marche, c'est que tu crées en fait une table
tu viens migrer tes données et à un moment, tu fais le swap en transactionnel sur la table. Mmh. Et du coup, cette opération de swap, par exemple, tu peux ne pas la faire en automatique pour te laisser le contrôle de quand est-ce que tu décides de vraiment appliquer le nouveau schéma en prod. Voilà. Donc, j'ai trouvé intéressant l'aspect très prod ready. Et du coup, ils ont, pour la petite info, PlanetScale, ils ont débauché quasiment tous ceux qui bossaient dessus chez GitHub.
D'accord.
Voilà.
Ce qu'on appelle des transfuges.
C'est ça.
Ça n'arrive nulle part.
Ça n'arrive nulle part. PlanetScale, c'est déjà une boîte où ils ont débauché la moitié des ingénieurs de base de données de Google. Et donc là, maintenant, ils ont tiré tout le monde chez GitHub.
Ça fait beaucoup. Mais du coup, ça fait moi, j'ai toujours la même question. On a une chance fabuleuse dans Postgres. C'est arrivé au tout début. C'est que quand ils ont implémenté les transactions avec ce qu'on appelle MVCC, ça intègre les transactions supportent aussi les DDL, donc alter table, create index, etc. C'est transactionnel dans Postgres. Vous faites begin, alter table, et puis là on vous dit file system is full, bah, ça fait rollback. Et ça c'est magique. Et donc si vous avez un create table, deux alter et puis un create index dans la même transaction, donc ce qu'on appelle une migration quand on est développeur d'application qu'on utilise un ORM.
Tu peux dire nous, on a compris, sous-entendu.
Ouais, il faut juste dire de quelle migration. Ça m'embête un peu, mais il faut dire de quelle migration.
Oui, bien sûr.
Il y a pas plus que ça dans mon discours. Enfin, j'essaye de pas en mettre plus en tout cas. Donc, on fait une migration, et puis elle échoue au milieu. On a quoi comme schéma en production ? Alors, quand on utilise PostgreSQL, on a le schéma d'avant. Donc, il y avait la V1, et on a une migration pour passer à la V2. La migration échoue, mais on est dans la V1. Si on n'a pas des DDL transactionnels, on est dans une version qui n'est ni la V1 ni la V2, que l'application, le code, n'a jamais vu. Et on fait quoi maintenant ?
On pleure.
Ah ouais, c'est sur les...
On restaure un backup.
Ouais, c'est ça. On retourne à la V1 le plus vite possible. Et puis, si jamais il y a eu des inserts qui ont été faits avec les nouvelles colonnes de la V1 pendant le truc, parce que comme c'était pas transactionnel, à quel moment le code a été déployé ? Est-ce que le code a pu faire un insert ou pas ? Enfin, voilà, bah, jouer avec ça, je sais pas. Et donc, ma question pour le... Tu disais que c'était prod ready dans le sens opérationnel, c'est-à-dire on peut voir ce qui se passe, etc. Est-ce que c'est prod ready pour les applications, pour les développeurs ?
Alors, en fait, de ce que j'ai vu, c'est l'application, en fait, voit toujours l'ancienne table jusqu'au switch.
Ouais, mais quand tu modifies qu'une table, du coup, c'est facile, mais si tu as deux ou trois modifications dans ta migration, quand tu passes de la V1 à la V2,
La question, c'est est-ce que le swap est transactionnel ? C'est ça la question.
En fait, de ce que j'ai vu, ils refont des tables virtuelles et ils écoutent les events, ils écoutent le log stream et ils rejectent toute la partie data. Mm-hmm. Et après, ils font le switch. Donc pour moi, normalement...
Ils font le switch de manière transactionnelle pour tous les objets qui ont été changés dans la même migration ?
De ce que je vois, ouais. Après, j'ai pas testé. Mais...
Du coup, l'application, elle est soit en V1, soit en V2, mais pas au milieu.
Ouais, c'est ça.
Ce qui, traditionnellement, n'a jamais été le cas dans MySQL.
Ouais, c'est ce que je vois d'après les... ouais, c'est ça. Ouais.
Du coup, c'est super intéressant, ouais.
Après, il faut voir ce que ça demande. Je n'avais pas vu si ça demandait un patcher MySQL ou si c'était ça se mettait par au-dessus de MySQL Vanilla.
C'est un binaire en fait qui est à côté et qui écoute le log stream et qui requête ta base et qui vient réinjecter dans cette ghost table et qui après fait le switch.
Ah, mais du coup, le switch transactionnel, il dépend du fait que MySQL supporte les transactions pour les DDL. Et ça, est-ce que c'est...
Ça, je sais plus. Moi, après, au moment du switch, tout ce qu'il a à faire, ça doit être de rename les tables, en fait.
Il fait un rename de table.
Mais le rename, il est... Du coup, ouais.
Mais c'est pas en une seule transaction, mais on peut considérer que s'il n'y a pas toutes les tables, s'il n'y a pas 100 tables qui changent...
Il en suffit de deux, hein. Oui. Il y en a une qui est renommée et pas l'autre. Du coup, l'application, elle parle à l'ancien ou au nouveau schéma, c'est compliqué.
Et donc, à minima, ça permet au pire de couper l'application 30 secondes le temps de faire le switch, plutôt que pendant tout le temps de la migration. C'est quand même intéressant, mine de rien. Même si PG reste mieux, mais bien sûr.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ça, c'est établi. Après,
je suis très content que ce soit vous qui le disiez. Merci beaucoup.
Mais, et puis on le dit naturellement, je veux dire, on se sent pas forcé là. Non, sur ce point, bah, c'est, historiquement, oui, ça fait plus longtemps en tout cas que c'est supporté. Après, oui, je pense que c'est lié, de ce que je vois, c'est un peu le même principe que les Facebook Online Schema Change et compagnie. Donc, il doit y avoir, je pense, une notion de transaction au moment du switch. Mmh. Maintenant, jusqu'à quel point elle est... Enfin, comment elle gère justement les données qui sont dans cet intervalle de migration c'est pas expliqué. C'est à nous de le creuser ou aux auditeurs de le creuser. On n'a pas plus de détails à donner là.
Mais ce que j'aime bien en outil de réflexion, c'est imaginer entre les deux commandes qui renomment les tables, file system is full. C'est l'erreur où on n'a pas fait exprès, c'est comme ça. Et puis du coup, qu'est-ce qui nous reste à la fin, quoi?
Yep. Bien. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Dernier truc, la tradition, une recommandation musicale de Dimitri. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui?
Et puis déjà, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre pour cet épisode.
Je pensais dire merci après, mais on peut dire merci.
Ah pardon, alors excuse-moi.
C'est pas grave.
Bon, merci après.
Alors du coup, cette musique.
En musique, j'ai pensé à la version de Voodoo Child de Hendrix, qui était enregistrée en studio en condition live avec les copains qui passaient dans les couloirs à ce moment-là, et qui dure 14 minutes, et qui est... Enfin, moi, c'est un morceau que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et que je continue de trouver extraordinaire. C'est juste des copains qui jouent dans un studio. Mais les copains, c'est Hendrix, c'est un pianiste de légende. C'est, voilà, c'est,
et pour moi, ça représente un peu...
Ouais, ça sert à ça, la musique aussi. Quoi. C'est, on partage des émotions ensemble et puis il se passe des trucs. Quoi.
Yep. Magical.
Super, merci pour votre recommandation. Merci d'avoir participé à ce numéro de Messages à caractère informatique. Et puis merci à tous d'être venus. Et merci aux auditeurs de nous avoir suivis.
Merci de votre invitation.
Et
votre
à bientôt.
Super. Je trouve ça super judicieux de dire merci en tout cas.
Excellente idée quand même.
Bravo.
Merci à tous. Ciao.
Merci. Ciao.